Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et en ce week-end un petit peu particulier, qui est à cheval entre 2022 et 2023, eh bien, je vous propose de revenir sur les temps forts des BFM Awards, qui chaque année mettent à l'honneur les plus belles réussites de l'économie française. La 18e édition s'est déroulée cette année encore dans le cadre prestigieux de la pyramide du Louvre. C'était il y a tout juste un mois et demi, le 15 novembre dernier. Et parmi les lauréats 2022, il y avait Guillaume Faury, désigné manager de l'année pour Airbus. Il succédait à Bernard Charles de Dassault Systèmes. Quant aux entrepreneurs de l'année, ce sont les dirigeants de deux ETI en pleine croissance qui avaient été récompensés, Pauline Duval et Raphaël Gorgé. Enfin, cette édition 2022 avait également mis à l'honneur les entreprises Manuloc, Too Good To Go et une licorne, Exotech, qui est la première licorne française industrielle spécialisée dans les robots de logistique. Et pour commencer cette émission, eh bien, spécial Awards, on était parti à l'international. Je vous propose donc de démarrer en découvrant le vainqueur du prix Conquête à l'international. C'est un grand géant de la mobilité durable avec des produits comme le TGV, bien sûr, mais pas seulement, qui s'exporte très bien et dans le monde entier. Cette entreprise, c'est bien sûr Alstom. Et on va donc écouter celui qui a été récompensé pour Alstom, tout simplement son président, Henri Poupart-Lafarge.
Nous sommes en train d'introduire le TGV aux États-Unis. États-Unis, le pays de l'avion, le pays de la voiture. Grâce à tous nos efforts, à grosse technologie, nous allons pouvoir rendre cette mobilité plus durable. Mais la semaine dernière, j'étais au Brésil, et c'est tout aussi important pour moi d'apporter la TGV aux États-Unis que d'apporter la technologie du monorail au Brésil, qui permet à des quartiers défavorisés de Sao Paulo, au lieu de mettre 2 heures pour aller travailler, ils vont mettre plus qu'un quart d'heure, 20 minutes. Donc l'impact positif de nos solutions se déploie bien sûr non seulement en France, mais à travers le monde.
Alors comme on est en tout petit comité, est-ce que vous accepteriez de nous partager une recette secrète justement pour la conquête à l'international ?
Alors, notre conviction profonde, c'est que le transport ferroviaire, qui donc est un atout pour ces différents pays, des nouvelles infrastructures, doit non seulement servir aux passagers, aux citoyens, mais l'investissement lui-même doit servir au pays. Et donc l'investissement doit être fait dans le pays. Donc depuis une dizaine d'années, nous sommes engagés de manière très volontaire dans la localisation de ce que nous faisons. Et je parlais un petit peu de l'émotion qu'on peut ressentir en voyant le monorail. On ressent le même type d'émotion quand nous sommes en Inde et qu'en quelques années, nous sommes passés de 0 à 10 000 employés en Inde. Et la fierté de nos usines indiennes de pouvoir fabriquer les métros pour l'Inde et à tous les opérateurs de pouvoir rentrer chez eux et d'expliquer à leurs enfants que grâce à eux, ils ont un métro. Donc la localisation est très importante. Elle est importante également pour être au plus près des défis des différents pays. Tous les pays n'ont pas exactement les mêmes défis. Je citerai un autre exemple. L'hydrogène est né d'abord en Allemagne. Et c'est grâce à notre présence très forte en Allemagne que nous avons pu développer cette technologie pour l'Allemagne, pour la France, pour le reste de l'Europe. Donc c'est très important pour nous d'être au plus près de nos différents marchés.
Voilà donc pour Henri Poupart-Lafarge, le PDG d'Alstom. À présent, une question. Peut-on opposer conquête internationale, dont on vient de parler, et souveraineté? Eh bien, un invité d'honneur est venu nous en parler. Il s'agit du commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton. On l'écoute.
Souveraineté, c'est la capacité...
La naïveté peut-être aussi.
C'est d'abord la fin de la naïveté, ça c'est sûr, mais c'est surtout la capacité de maîtriser son destin en toutes circonstances. Et le « en toutes circonstances » est important. C'est important parce que précisément, la mondialisation telle que l'on a connue, dans un monde qui était ouvert et qui a bien fonctionné, bien aujourd'hui on voit que les dépendances qu'elle a créées peuvent être utilisées au fur et à mesure de l'évolution, des évolutions géopolitiques, et Dieu sait qu'elles sont violentes ces temps-ci et que ça va continuer, peuvent être utilisées comme des armes hybrides. Et là, finalement, ce qui est très important, c'est que derrière le mot souveraineté, il y a la capacité de bâtir des chaînes de valeur, des chaînes de valeur qui vont devenir maintenant résilientes et que l'on va pouvoir continuer à faire progresser. Ça peut être dans les semi-conducteurs, ça peut être dans les matériaux critiques, dans les terres rares, ça peut être dans les vaccins. Quelles que soient les évolutions géopolitiques, par un mot, un terme que je vais utiliser qui est très important, rapport de force. Et ce rapport de force, ce qui va nous permettre de l'utiliser, c'est la force et la puissance du marché intérieur.
Thierry Breton, s'il y avait deux domaines dans lesquels vous estimez que la Commission européenne doit instaurer ce rapport de force avec nos partenaires qui sont parfois nos alliés et parfois qui peuvent être nos ennemis.
Oui. Eh bien, on l'a déjà fait, évidemment, on l'a fait, vous savez qu'on m'avait confié notamment les vaccins au cœur de la pandémie. Et lorsque j'ai eu la responsabilité d'accroître, d'augmenter avec bien entendu tous les partenaires la capacité de production de ces vaccins sur le continent, nous nous sommes rendus compte que nos amis et alliés américains avaient mis un instrument, un DPA, qui bloquait de leur côté toute exportation de vaccins et de composants vers l'Europe, même dans nos usines. Donc on a dû mettre un instrument de réciprocité, faire la même chose, pour dire les choses simplement, et du coup, on a réouvert les chaînes de valeur. C'est cette notion de rapport de force. On le fait aussi, évidemment, avec les Chinois. La Chine a besoin de l'Europe. Si la Chine n'exportait plus en Europe, c'est 3 à 4 points de PIB en moins, et on sait qu'à ce moment-là, la Chine serait en récession. Elle est à 3%, 3,5% de croissance aujourd'hui. Donc, effectivement, on instaure maintenant, chaîne de valeur par chaîne de valeur, ces rapports de force. C'est vrai aussi dans les semi-conducteurs, pour prendre un deuxième exemple.
Et puis bien sûr, les BFM Awards, eh bien, c'est aussi la désignation de l'entrepreneur de l'année. Cette année, sachez-le, le jury a vu double et n'a pas réussi à départager deux lauréats. Il y a donc bien deux entrepreneurs de l'année ex aequo. On commence avec Pauline Duval, c'est la directrice générale de l'entreprise familiale Groupe Duval. Stéphanie Collot nous rappelle ce qu'est justement le groupe. Et juste après, on écoute sa jeune dirigeante.
À 34 ans, Pauline Duval est la directrice générale du groupe Duval, l'un des principaux acteurs du marché immobilier dans le monde. Elle est l'une des trois actionnaires du groupe avec son père et son frère. Sous sa coupe, le groupe a pris le virage de l'innovation, de la RSE et des investissements durables. Pauline Duval est également une véritable business angel. Elle est la principale femme à investir sur la période 2020-2021 dans pas moins de 16 startups pour 7 millions d'euros. La mixité fait également partie de ses fers de lance. Son comité de direction affiche d'ailleurs une parité exemplaire avec 60% de femmes. Le groupe Duval représente aujourd'hui 5000 collaborateurs, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et 2,8 milliards d'euros d'actifs.
Une entreprise familiale, ça peut avoir une image un peu poussiéreuse, mais c'est profondément moderne d'après moi et je dirais que c'est devenu une évidence parce que il y a une certaine agilité dans la prise de décision, une stabilité dans l'actionnariat, une vision long terme, et donc c'est profilé pour de l'impact et profilé pour du long terme. Donc je dois dire que c'est une grande preuve de confiance de la part de mon père de m'avoir transmis cette entreprise, donc je le remercie. Mais c'est faut être à la hauteur, finalement, à la hauteur de ce qu'il a construit et à la hauteur des 5000 collaborateurs qui sont avec nous tous les jours dans cette belle aventure. Et puis j'y ai vu aussi une formidable opportunité d'avoir un impact en tant que jeune dirigeante, de pouvoir avoir de contribuer finalement à l'écosystème entrepreneurial français.
Et effectivement, il y a autre chose que vous faites, vous investissez beaucoup dans d'autres entreprises. Vous avez d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Transmission, l'entrepreneuriat nouvelle génération. Pourquoi est-ce que vous estimez que la transmission et l'investissement fait partie des valeurs de cette génération d'entrepreneurs?
Justement, la transmission, c'est aussi une vieille valeur que je trouvais un peu poussiéreuse, que je voulais remettre au goût du jour. Et je voulais dire que la transmission, il n'y a pas d'hierarchie dans la transmission. Tout le monde est capable de transmettre. Ouais. Et finalement, c'est un cercle vertueux.
Et parité oblige, eh bien, aux côtés de Pauline Duval, c'est un homme qui a été co-désigné entrepreneur de l'année. Il s'appelle Raphaël Gorgé, il est le directeur général du groupe Gorgé, spécialisé dans la robotique civile et militaire, notamment dans tout ce qui a rapport à la sécurité. Stéphanie Collot, là encore, nous rappelle la stratégie et les axes de croissance de Gorgé. Et juste après, on écoutera son dirigeant.
Raphaël Gorgé est le directeur général du groupe Gorgé, un groupe industriel de haute technologie spécialisé dans les domaines de la robotique. Depuis 20 ans, sa stratégie a toujours été d'orienter le groupe vers plus d'exportations et plus d'innovation. En 10 ans, le groupe a investi près de 200 millions d'euros en R&D. Une stratégie qui porte ses fruits avec l'acquisition de la société XBlue en 2022. Avec leur filiale ECA, ils vont former ensemble la société Exail. Ce regroupement de deux entreprises de taille comparable va faire émerger un leader européen et même mondial du secteur. Dans son nouveau périmètre, le groupe compte 1500 personnes et un chiffre d'affaires d'environ 270 millions d'euros.
Comment fait-on quand on est une ETI comme vous pour se faire une place sur le marché des drones de surveillance et militaire dans un monde où règnent des géants comme Thales, entre autres ?
Oui, alors la réponse est assez simple. Elle est un petit peu difficile à mettre en œuvre, mais elle est assez simple. Il suffit d'avoir les meilleurs produits. Les meilleurs produits, c'est ceux qui nous ont permis de remporter il y a 2 ans un appel d'offres gagné auprès de la marine référente de l'OTAN sur des systèmes robotisés de drones pour déminer les océans. Et ces marines, les marines du monde, les marines de l'OTAN vont se rééquiper. On espère bien que ce système, que nous sommes les seuls à proposer de manière complète, va se déployer. Donc la réponse est celle-là. C'est quand vous êtes un peu plus petit, il faut être bien meilleur.
Et on va rester dans le domaine de la robotique avec Exotech, une start-up que l'on connaît et que l'on suit depuis très longtemps sur BFM Business, qui conçoit des robots destinés à assurer la logistique dans les entrepôts. Exotech qui est devenue début 2002 la première licorne industrielle française. Et c'est pour cela, justement, que l'un de ses deux jeunes cofondateurs, Renaud Heitz, a reçu le BFM Award de révélation de l'année. On va l'écouter dans un instant, mais tout d'abord, on va écouter le discours très enthousiasmant de celle qui lui a remis le prix. C'est la championne du monde de judo, Romane Dico.
C'est vrai que sur ma ceinture que je porte en compétition, il y a 5 lettres qui sont gravées. Donc le T, le D, le V, le E et le S, TDVS. Et en fait, ça signifie travail, détermination, volonté, engagement et sérieux.
Waouh, c'est comme un entrepreneur, bravo.
Quel est le secret pour devenir champion ou championne du monde ?
Pour moi, c'est le même secret que pour devenir leader dans une entreprise. C'est se relever malgré les échecs, toujours croire en soi et la persévérance. Parce que c'est pas facile dans le sport de haut niveau, mais dans l'entreprise non plus, dans l'entrepreneuriat. Donc pour moi, c'est vraiment les valeurs de se relever malgré les échecs, croire en soi et aller jusqu'au bout.
Alors découvrons ensemble le nom.
Et juste, moi j'ai une question quand même. La prochaine étape, c'est quoi ? C'est les JO, Paris ?
Les Jeux à Paris pour l'or, forcément.
On sera derrière vous.
Évidemment. Hein.
Merci beaucoup.
On ouvre l'enveloppe.
Le lauréat dans la catégorie révélation de l'année est Exotech.
Exotech et son cofondateur Renaud Heitz.
La société Exotech, cofondée par Renaud Heitz et Romain Moulin, fournit des flottes de robots capables d'évoluer en 3 dimensions à l'intérieur des entrepôts afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la rentabilité. 7 ans après sa création, Exotech est désormais présente sur 3 continents et 14 pays. Exotech, c'est aussi un soutien pour plus de 30 marques leaders dans le e-commerce, l'alimentaire, le retail, la fabrication et la logistique externalisée. Exotech a su connecter les mathématiques à la mécanique en passant par l'humain. Pour eux, concevoir des robots, c'est aussi replacer l'homme au cœur de la réflexion. Véritable ADN de l'entreprise, la R&D s'appuie sur l'excellence de la formation française et développe des innovations pour répondre aux enjeux de l'entrepôt du futur. Valorisée 2 milliards de dollars, Exotech est la première licorne industrielle française. Elle ambitionne d'accélérer son expansion à l'international et de devenir le leader mondial de la robotique logistique.
Mon cofondateur Romain et moi, on aime faire des choses qu'on peut toucher, des choses concrètes, des choses où il y a de l'intelligence, il y a de l'abstraction, mais des choses à la fin qu'on peut voir et qu'on peut voir bouger. Nos usines, elles sont à Lille, principalement, dans le nord de la France où on est basé. Et grâce à ça, on a réussi à grandir. Des robots, notre premier robot s'appelle le Skypod. On en a maintenant 4000 qui sont dans 70 entrepôts dans le monde. Et on continue à se développer, donc en Europe bien sûr, mais maintenant aussi États-Unis où Romain, mon cofondateur, est parti s'installer pour développer le marché là-bas, et Japon, à Tokyo.
Alors depuis que vous êtes lancé, le paysage de la French Tech a beaucoup évolué. Est-ce que vous diriez que l'écosystème a vraiment changé ?
Je pense qu'il y a des choses qui évoluent. Quand les startups, c'était uniquement aux États-Unis, c'était du numérique et c'est tout. Et je pense que l'Europe a vraiment une carte à jouer pour dire on est capable de faire des startups, on est capable d'innover avec des ingénieurs qui font de la méca, avec des ingénieurs qui font de l'élec, avec du logiciel, je dirais au-dessus de ça, mais pas uniquement. Et donc oui, je pense qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui évoluent. Dans les incubateurs où on a pu être au début, on voit des projets qui se lancent sur de la robotique. Il y a eu tout à l'heure une entreprise en robotique que je connais qui fait des choses merveilleuses. Donc oui, je pense que ça bouge et je pense qu'on a montré que c'était possible de réussir en France, en restant ici, de faire de l'industrie.
Et vous savez à quel point dans cette émission on aime justement les industries qui se maintiennent, voire qui se créent dans les territoires français. Alors on écoutait donc à l'instant la championne Romane Dico. Et bien un autre invité est venu sur la scène des BFM Awards, insuffler du courage, de la motivation et de l'engagement. Il s'agit de l'aventurier Mike Horn qui a remis lui le trophée dans la catégorie raison d'être. Et bien je lui laisse le soin d'annoncer donc le nom du futur lauréat.
Le lauréat dans la catégorie raison d'être est Too Good To Go.
Avec Lucie Bache, sa cofondatrice, qui va nous rejoindre.
La mission de la start-up Too Good To Go, c'est de donner les clés au plus grand nombre pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Pour cela, Too Good To Go propose une application qui met en relation des commerçants qui ont des invendus avec les habitants de quartier. En France, 13 millions de personnes ont déjà téléchargé l'application. 45 millions de produits ont été sauvés de la poubelle. Too Good To Go travaille avec 35 000 partenaires sur tout le territoire. Autre objectif, sensibiliser le plus grand nombre. Dans les écoles notamment, 10% des élèves de CE1, CE2 ont été sensibilisés au gaspillage alimentaire. Pour mieux éduquer le consommateur, ils ont aussi mis en place des pictogrammes sur plus de 300 millions de produits. Leur projet, c'est donc de lutter contre ce gaspillage dans les foyers, mais aussi dans les supermarchés. Aujourd'hui, le but de Too Good To Go, c'est de trouver une solution durable pour éviter le gaspillage alimentaire en amont, avant même qu'il ne finisse sur l'application.
Too Good To Go, c'est la 7e appli la plus téléchargée au monde en 2022. Donc la première, c'est McDonald's. Il va falloir encore monter les échelons pour changer les choses. Mais non, on se rend compte que en fait aujourd'hui, les gens alliés combat écologique tout avec les contraintes financières que beaucoup d'entre nous traversent, je pense que c'est essentiel. Et avec la réduction du gaspillage alimentaire, on lie pouvoir d'achat et impact écologique. Et je pense qu'il faut trouver ces solutions aujourd'hui qui nous permettent de faire les deux à la fois, même les trois, puisqu'il y a aussi le combat social. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire évoluer les choses au quotidien.
Eh bien, bravo, bravo à vous pour ce prix. Lucie Bache, vous pouvez partir avec et le...
Merci beaucoup.
Et bravo, tu le mérites.
Merci.
400%.
Merci à tous les deux.
Voilà donc pour ce prix raison d'être remis par Mike Horn, une des très nombreuses personnalités présentes il y a quelques jours donc sous la grande pyramide du Louvre. Alors à l'instant on récompensait la raison d'être et pour la chef d'entreprise dont on va parler maintenant, eh bien sa raison d'être à elle, c'est notamment la famille. Catherine Barthélémy, la PDG de Manuloc, a reçu le prix de la transmission familiale. On va l'écouter dans un instant, accompagnée sur la scène de ses deux fils et de son directeur général qui lui est un élément extérieur de la famille. Mais tout d'abord ce qu'il faut savoir sur Manuloc avec Stéphanie Collot.
Catherine Barthélémy, fondatrice et présidente de Manuloc, s'est révélée être ces dernières années une chef d'entreprise engagée, attachée à l'identité de son pays et dotée d'un vrai esprit entrepreneurial. Bien qu'éloignée des réalités du management durant sa jeunesse, elle se retrouve à l'âge de 28 ans gérante de la société Sermat, créée par son père. Il avait eu l'idée d'introduire la location de matériel et le contrat à l'heure de marche de l'engin. Une capacité d'adaptabilité auprès de leurs clients qui met en avant leur efficacité et leur prospérité. 13 ans plus tard, elle lui rachète ses parts, ce qui lui permettra de créer Manuloc. Femme libre et déterminée, elle est parvenue à concilier croissance et indépendance en donnant à la société une taille nationale puis internationale. Manuloc a vu son chiffre d'affaires passer de 600 000 euros à 400 millions d'euros entre 1972 et aujourd'hui. L'entreprise compte 1000 salariés.
Manuloc a maintenant presque 60 ans, elle est dans la famille et j'espère, grâce à mes fils et à mon fils spirituel, notre directeur général, que ça va continuer encore très longtemps.
Alors justement, la suite, elle va s'écrire, vous l'avez dit, avec un membre extérieur à la famille, Johan Perroulet, vous êtes directeur général. Catherine, vous avez tenu à ce qu'il soit présent ici à vos côtés et aux côtés de vos fils. Pourquoi ?
Alors pourquoi ? Parce que nous travaillons ensemble depuis presque 20 ans et qu'il a tout compris de ce métier et de ma vision de ce métier. Donc il va soutenir mes deux fils. Il s'est engagé avec nous dans la durée et j'espère que tous les trois, ils vont porter cette entreprise très loin, très haut.
Et bien nous aussi.
Et ben Thomas, Mathieu, vous êtes ouvert à l'idée d'avoir d'autres membres dans la famille. J'espère que vous n'êtes pas fermé.
Ah ben évidemment, et je suis ravi d'avoir notre Johan avec nous. Et plus on a une équipe exceptionnelle de cadres, une équipe de une grande famille de 1000 personnes, 1000 collaborateurs. Et Johan est vraiment un grand leader avec nous pour nous accompagner.
Et on va terminer cette spéciale BFM Awards avec le prix du manager de l'année. Alors une question, qui a succédé à Bernard Charles, le DG de Dassault Systèmes ? Eh bien je laisse le soin à Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, d'annoncer avec Bernard Charles le nom du manager de l'année 2022.
Le grand prix du manager de l'année est attribué à
Guillaume Faury,
le président de la directeur général d'Airbus.
Bravo Guillaume.
Je propose que Bernard Charles vous porte votre prix. Voilà.
Guillaume Faury, évidemment, encore pour vous aussi une année incroyable de transformation. D'abord parce que vous avez une crise où tout s'est arrêté. Et puis maintenant, tout reprend encore plus vite qu'attendu. Le transport aérien, je ne sais pas si c'est bon pour la planète, vous allez nous le dire, mais reparti comme on ne l'attendait pas. Vous mettez une pression incroyable, dingue, sur vos fournisseurs pour monter en cadence. Vous visez 75 avions à 320 par mois en 2025. Certains nous disent il y va un peu fort, hein, Guillaume Faury. Vous arrivez à faire les stop and go comme ça ?
C'est vrai qu'on a traversé des périodes de montagnes russes absolument incroyables. On était en très forte montée en cadence au moment où on a été frappé par le Covid. Le transport aérien mondial s'est arrêté. Il a fallu s'adapter à toute vitesse à la baisse, tout en gardant la vision long terme et la capacité à rebondir et être capable de préparer les grandes transformations dont on va parler un petit peu, j'imagine. Et puis là, voilà, le redémarrage et effectivement, on repart vers des niveaux de production très importants. On a un carnet de commandes qui correspond au rythme de production d'aujourd'hui à plus de 10 ans. Et donc, nos clients sont impatients et donc effectivement, on essaie de tirer toute la supply chain, tous les fournisseurs avec nous pour assumer cette responsabilité qui est quand même extrêmement positive d'avoir beaucoup de clients.
Voilà donc pour le résumé forcément non exhaustif de cette cérémonie des BFM Awards qui avait eu lieu donc il y a un peu plus d'un mois, le 15 novembre, à la Pyramide du Louvre. Vous apercevez la photo finale avec tous les lauréats et tous les remettants. Il y avait eu aussi une séquence très forte et inédite avec Christophe Jacubizine, Laure Closier et Anthony Morel dans le métavers. Bref, comme chaque année, la quintessence de l'économie positive que l'on défend depuis si longtemps sur BFM Business. Et c'est aussi le credo, vous le savez, de la France à tout pour réussir qui reviendra bien sûr dès le week-end prochain, les 7 et 8 janvier pour un numéro inédit, le premier de 2023. D'ici là, très bonne fête de fin d'année avec un peu d'avance, très belle année 2023 et donc à très vite sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.